Philippe Vandel.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Content de vous retrouver pour commencer la semaine. Content de retrouver ce lien qu'est Culture Média. C'est le jour 7 du confinement. Déjà une semaine et plus que jamais besoin de culture pour s'évader et de médias pour s'informer. Jamais les JT et les chaînes d'infos n'ont été aussi regardées que dans cette période inédite. Vous retrouverez dans l'émission le journal des médias de Cyril Lacarrière, le journal de la culture d'Hélène Manarino. Toute l'équipe est mobilisée à distance. On va vous parler d'une série géniale sur Netflix consacrée à la F1. Je dis pas ça parce que j'adore ce sport, mais justement parce qu'habituellement Margot Barallon déteste la Formule 1. Et puis la culture gastronomique, c'est également de la culture. Depuis sa cuisine, Laurent Mariotte va nous donner des recettes de saison fraîches et faciles à faire avec les enfants ou un chef 3 étoiles s'il y en a un chez vous. Notre infomédia 7 à 8, le magazine d'information du dimanche de TF1 qui lance à partir de ce soir 7 à 8 la quotidienne. Nous serons avec son présentateur Harry Roselmack. Ensuite, nous poserons cette question: pourquoi les télévisions ne montrent quasiment jamais la banlieue dans les sujets sur le coronavirus? Nous serons avec Richard Verly. Il est journaliste, il est le correspondant du quotidien suisse Le Temps et lui est allé en reportage sur le terrain. Et Fabrice Goll, il est directeur général de France 3 Paris-Île-de-France. Enfin, notre invité culture, c'est l'humoriste Jarry qui propose chaque soir à 18h30 sur Instagram et Facebook le Jarry Show avec de nombreux invités. Vous allez entendre que ça déménage et il ose des choses que l'on n'ose plus à la télé. Culture Média, c'est parti. Bonjour Cyril Lacarrière.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour à toutes, bonjour à tous.
Place au journal des médias depuis l'aile gauche de votre château, Cyril. Qu'est-ce que vous avez au menu ce matin ?
Eh bien ce matin, nous parlons de Disney+, pas franchement le bienvenu en France, de l'école à la maison et d'une lueur d'espoir pour Tom Lane.
Mais Cyril, d'abord les audiences du week-end et d'abord hier soir, la soirée du dimanche, qu'est-ce que les Français ont regardé à la télévision ?
C'est une grosse soirée pour le service public. France 2 est en tête des audiences. Hier soir, le film Les Choristes a rassemblé plus de 5 300 000 Français devant leur poste. Deuxième place pour France 3 avec sa série Inspecteur Barnaby, plus de 3 700 000 téléspectateurs. Et TF1 se classe seulement en troisième position avec son film d'animation Moi, moche et méchant, regardé par 3 et demi de personnes. À noter également dans les audiences d'hier, Philippe, qu'il y a des classiques dont on ne se lasse visiblement pas. La Grande Vadrouille, le film de Gérard Houry, sorti en 1966 et diffusé hier après-midi sur France 2, a été regardé par plus de 5 millions de Français.
Incroyable.
À cet instant précis, près d'un tiers des téléspectateurs devant leur poste de télé étaient devant la 2. Et un score étonnant, il dépasse la dernière programmation en prime time du film avec Bourvil et De Funès. C'est ce qu'on appelle s'offrir un peu de réconfort.
Et puis Cyril, un point sur les audiences du week-end.
Un gros score vendredi soir pour Koh-Lanta, plus de 5 700 000 téléspectateurs. Le confinement a du bon, c'est la meilleure audience de l'émission depuis son retour à l'antenne. Et samedi, la première place est pour France 3 grâce à sa série Cassandre qui signe son record historique avec plus de 5 200 000 Français devant leur écran. C'est 800 000 de plus que la semaine précédente.
Culture Média.
Et on commence maintenant ce journal des médias avec une mauvaise nouvelle pour les Français confinés, donc autrement dit pour quasiment tout le monde. Le lancement de Disney+ est repoussé en France.
Oui, on sentait venir cette décision depuis quelques jours. C'est chose faite, Disney+ sera finalement lancé en France le mardi 7 avril au lieu de demain. Effectivement, c'est une mauvaise nouvelle pour celles et ceux qui sont actuellement enfermés chez eux et qui espéraient peut-être profiter d'une nouvelle offre de vidéos à la demande par abonnement et se gaver, en tout cas gaver leurs enfants des dessins animés Disney.
Mais cette arrivée ne plaisait pas à tout le monde, Cyril.
Et notamment pas à certains opérateurs de téléphonie. Orange et SFR notamment ont beaucoup plaidé pour que la plateforme américaine ne se lance pas en France à la date prévue. En cause, un risque de saturation des réseaux internet pour cause de confinement général. Les deux opérateurs ont donc mené une bataille de lobbying auprès des pouvoirs publics pour remporter la mise. Et Disney a annoncé ce week-end qu'il préférait jouer la carte de l'apaisement et modifier son calendrier. Une drôle de situation quand même, car Disney+ sera bien lancé demain, mardi, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Espagne et en Italie. Et je rappelle qu'en Espagne et en Italie, les gens sont également confinés chez eux et qu'a priori, personne ne semble craindre qu'Internet explose à cause de l'arrivée de Disney.
Donc ça marcherait chez eux et pas chez nous. Est-ce qu'il n'y aurait pas une autre raison cachée, Cyril ?
Disons qu'il existe une hypothèse, on vous en avait parlé, ici même, Canal+ avait négocié l'exclusivité de la distribution de Disney+, et c'est donc avec Canal+, que les opérateurs devaient négocier s'ils voulaient également proposer le service à leurs abonnés, sauf que ces négociations n'ont pas abouti, et du coup, pas de Disney+, sur les box des opérateurs. On peut se demander, encore une fois, c'est une simple hypothèse, est-ce que Orange et SFR auraient fait les mêmes demandes s'ils avaient été en mesure de proposer Disney+, à leurs clients ? Une question à plusieurs dizaines de millions d'euros.
En tout cas, le gouvernement gouvernement, lui, est satisfait de ce lancement retardé.
Oui, un communiqué envoyé hier soir par le ministère de la Culture salue les mesures prises par les grands fournisseurs de contenu sur Internet pour préserver le bon fonctionnement des réseaux de télécommunications. Le ministère, quand même, qui au passage précise tout de même que la situation actuelle des réseaux Internet ne soulève pas d'inquiétude générale. Morale de l'histoire, il n'y a pas de problème, mais on préfère quand même le régler.
C'est les Shadok. Cyril, lancement aujourd'hui d'une nouvelle émission sur France Télévisions.
Les enfants ne peuvent plus aller à l'école, alors l'école débarque à la maison. Le groupe Public se mobilise et lance aujourd'hui une toute nouvelle émission, la Maison Lumni, diffusée sur plusieurs antennes du groupe. Nous sommes en ligne avec Amel Kogar, la directrice de l'unité éducation de France Télévisions. Bonjour Amel Kogar.
Bonjour.
Alors Amel, dites-nous à quoi va ressembler cette Maison Lumni ?
Alors, donc, c'est une programmation spéciale qui va être sur France 2, France 5, France 4. Là, je suis devant France 4. Il y a déjà la première émission qui est en cours de diffusion pour les élèves de CP et de CE1 sur le français et puis les maths. Donc, l'idée, c'est de proposer à tous les enfants, évidemment, non seulement de rester chez eux, ça c'est très important, mais de pouvoir garder leurs acquis et de les développer, si possible, évidemment, avec des cours qui vont être adaptés tout au long de la journée au niveau. Donc on va commencer par les primaires et les tout-petits à 9h sur France 4, puis à 14h pour les collégiens et à 15h pour les lycéens. Et en parallèle, on a lancé une émission qui s'appelle « La Maison Lumni, l'émission », qui va être diffusée là dans quelques minutes à 10h sur France 2, qui regroupe un plateau, une émission qui est animée par Alex Goon, des enseignants, des éducateurs, pour parler non seulement d'éducation et de travailler sur les fondamentaux, des notions fondamentales en français, en histoire, en maths, mais aussi faire des activités éducatives, donner, informer, décrypter à hauteur d'enfants les éléments en lien avec le coronavirus, faire des gestes de prévention, etc. Voilà. Tout ça est un dispositif sur les antennes linéaires de France Télévisions en complémentarité avec une plateforme.
En plus de cette maison Lumni.
Oui.
Lumni, vous l'avez dit, c'est une plateforme sur Internet. Est-ce que vous pouvez nous donner l'exemple d'un programme qui serait particulièrement consommé par les jeunes utilisateurs ?
Alors il y en a beaucoup, hein. Il y a plus de 10 500 contenus sur la plateforme. Oui, vous m'entendez ? Il y a plus de 10 500 contenus sur la plateforme. Vous m'entendez ?
On vous entend très bien, c'est Philippe Vandel, je vous entends très bien. Vous disiez qu'il y a plus de 10 000 utilisateurs sur la plateforme et on attend la suite.
Allez-y. Il y a plus de 10 500 contenus sur la plateforme, donc j'ai envie de citer peut-être un jour une question qui est pour les petits, un petit programme court d'une minute trente qui décrypte chaque jour une question d'actualité à partir de questionnements d'enfants. La collab de l'info, qui est un peu pour les plus grands, qui parle des fondamentaux de l'éducation aux médias, qui est un binôme entre un youtubeur et un journaliste de France Télévisions, justement pour ces questions d'éducation aux médias. Et peut-être pour les plus grands, les lycéens, la grande explication, qui est un programme court de 3 minutes autour de l'histoire que nous avons réalisé avec Lina et qui explique les sujets d'histoire qui sont traités dans les programmes scolaires du bac notamment.
Très bien, Amel Kogar. Je rappelle que vous êtes la directrice.
Merci, Amel Kogar.
Allez-y, Cyril, allez-y. On vous a retrouvé. On vous avait perdu, on vous a retrouvé, Cyril, allez-y.
Pardon, Philippe. D'accord, excusez-moi, je vous entendais bien, moi. Amel Kogar, je rappelle que vous êtes la directrice de l'unité éducation de France Télévisions et merci d'avoir été en direct avec nous sur Europe 1.
Je rappelle également que la Maison Lumni sera diffusée à 10h sur France 2, à 11h sur France 5 et à 15h45 sur France 4. Mais elle est déjà à 10h sur France 2 et vous aurez. Non, n'y allez pas parce qu'à 10h, vous serez dans Culture Média. Allez plutôt à 15h45. Sur France 4. Cyril, autre initiative à nous signaler pour ceux qui veulent profiter de la presse.
En cette période de confusion, il faut être informé et bien informé. Alors, la plateforme Caféine vous offre un mois de lecture totalement gratuite. Plus de 1600 titres de journaux et de magazines à votre disposition. C'est une lecture illimitée, hein. Et on vous le signale parce que, effectivement, actuellement, tous les médias se mettent à offrir plusieurs offres comme ça à leurs lecteurs, à leurs téléspectateurs. Pour vous inscrire à Caféine, vous allez sur caféine.co. C'est caféine.co. Vous vous inscrivez sur la page d'accueil et vous devez le faire jusqu'à mercredi.
Cyril, on ne se lasse pas de suivre le parcours pour le moins chaotique, c'est un euphémisme, de Tom Leb à l'Eurovision.
Oui, un nouvel épisode dans ce feuilleton mouvementé. On le sait, Tom Leb devait être le représentant français au prochain concours de l'Eurovision en mai prochain à Rotterdam. Seulement, sa chanson ne plaisait pas au ministre de la Culture.
C'est vrai que les paroles des couplets sont en français, mais le refrain est en anglais. Ça m'a un peu cassé les oreilles ce matin à la radio, mais j'ai, sachez-le, fait passer le message de mon étonnement quant à une chanson dont le refrain est écrit en anglais. Chacun à sa place doit être exemplaire et montrer l'exemple donc pour faire en sorte que la France soit portée avec fierté partout, tout le temps.
Le message est bien passé, Tom Leb a revu sa copie, The Best In Me est devenu mon allié, une alliée qu'on n'entendra en fait jamais pour cause de coronavirus et d'annulation de l'Eurovision. Mais ce n'est pas terminé, les organisateurs de l'Eurovision viennent de préciser que les pays étaient libres de sélectionner le même artiste que celui prévu pour l'édition 2020, mais à condition qu'il se présente avec un autre morceau. Voilà donc mon allié Mortenay et notre cher Tom Leb. Bon, pour écrire une nouvelle chanson, il a un an devant lui, pour déjouer les bookmakers qui lui pronostiquaient une cuisante défaite.
Merci beaucoup Cyril Lacarrière. On vous retrouve demain pour un nouveau journal des médias. Nous, dans un instant, place à l'info média du jour. Nous serons en compagnie d'Harry Roselmack pour le lancement de 7 à 8 la quotidienne. Dès ce soir, il vous proposera un rendez-vous quotidien au cœur de la vie des Français qui affrontent l'épidémie du coronavirus. Mais d'abord, musique sur Europe 1, Thomas Dutronc. Plus je t'embrasse.
Plus je t'embrasse, plus j'aime t'embrasser. Plus je t'enlace, plus j'aime t'enlacer. Le temps qui passe ne peut rien y changer. Mon cœur bat quand tu t'en vas, mais tout va bien quand tu reviens. Car plus je t'embrasse, plus j'aime t'embrasser. Je ne peux m'en lasser. J'en ai tellement envie que j'oublie tout dans la vie. C'est insensé ce que j'aime t'embrasser. Le temps qui passe ne peut rien y changer. Mon cœur bat quand tu t'en vas, mais tout va bien quand tu reviens. Car plus je t'embrasse, plus j'aime t'embrasser. Je ne peux m'en lasser. J'en ai tellement envie que j'oublie tout. C'est insensé ce que j'aime t'embrasser. Oh, oh, oh. Plus tu m'aimes, plus je t'aime. Plus j'aime t'embrasser.
C'était Thomas Dutronc sur Europe 1. Plus je t'embrasse. Dans un instant, place à l'info média du jour. Nous sommes en compagnie d'Harry Roselmack pour le lancement de 7 à 8 la quotidienne sur TF1.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
La France bouge, c'est votre rendez-vous quotidien. Avec cette crise sanitaire, nous vous proposons un dispositif spécial solidarité. Que vous soyez une entreprise, une association, une collectivité, on vous donne la parole. Nous allons vous écouter, mettre en avant vos initiatives et récolter toutes vos bonnes idées.
Europe 1, écoutez le monde se mobiliser.
La France bouge, la France se bouge, c'est tout à l'heure, à partir de midi sur Europe 1 et sur le hashtag Radio Ouverte.
Ça peut arriver partout, à n'importe quel moment. 81% des femmes en France ont déjà été victimes de harcèlement sexuel dans des lieux publics. Nous en sommes témoins, mais nous détournons souvent le regard. Le moment est venu de réagir. L'Oréal Paris, l'ONG Olabac et la Fondation des Femmes s'unissent pour apprendre aux hommes et aux femmes comment lutter contre le harcèlement de rue. Grâce à des actes simples, mais déterminants.
Agissons ensemble contre le harcèlement de rue. Apprenez à réagir sur standup-france.com.
Culture Média.
Philippe Vandel. Actualité exceptionnelle, dispositif exceptionnel. À partir d'aujourd'hui, le magazine 7 à 8 sur TF1 passe en quotidienne du lundi au vendredi à 19h05, en plus du dimanche habituel. Évidemment, comment les familles, les entreprises, les personnels soignants, les commerçants, les personnes isolées affrontent-ils et elles le coronavirus ? Réponse à partir de ce soir et toute la semaine avec Harry Roselmack. Bonjour Harry.
Bonjour Philippe et bonjour à vos auditeurs.
Bien
sûr. J'espère ce soir nos téléspectateurs.
Pas trop, parce qu'on a des émissions nous aussi sur Europe, avec Nathalie Lévy notamment. Mais exactement, c'est très confraternel. Merci d'être en direct avec nous ce matin. Question que je pose à tous mes invités en ce moment, et c'est bien normal. Comment ça va, Harry Roselmack ?
J'ai la chance d'aller bien, mes proches aussi. Après, je vis comme tout le monde dans ces conditions un peu particulières de confinement. Je travaille beaucoup de chez moi. Je peux me déplacer évidemment parce que les plateaux, je ne les enregistre pas à la maison, mais les mouvements sont extrêmement limités.
Exactement, on peut aller du domicile au travail, du travail au domicile et pas davantage. Votre émission 7 à 8, je l'ai dit, est diffusée à partir de ce soir en lieu et place de la série Demain nous appartient, dont les tournages sont à l'arrêt pour cause de coronavirus. Pardon, qui a décidé de ce qu'il y aurait à votre place ? C'est la direction qui vous a appelé ou c'est vous et vos producteurs, Emmanuel Chin, Éléphant et Thierry Bizot, qui vous êtes proposés ?
Alors, de ce que j'en sais, c'est la direction de l'information de TF1, Thierry Tuilier, qui a appelé Emmanuel. Mais Emmanuel Chin et l'ensemble des équipes d'Éléphant et compagnie, et notamment de la rédaction de 7 à 8, ont tout de suite répondu présent pour ce rendez-vous qui nous semble légitime. On est comme vous, c'est-à-dire que dans ces périodes où on est un peu coupé des autres physiquement, la télévision, comme la radio, comme Internet, constituent un lien, et l'information notamment, et donc il était logique que nos équipes de 7 à 8, avec leur savoir-faire, puissent constituer une part de ce lien et de montrer cette France sur tous ses fronts confrontée au coronavirus.
Ne dites pas tout, parce qu'avant que vous nous détailliez le programme de ce soir, on va écouter la bande-annonce.
Dès lundi, en cette période inédite, Harry Roselmack vous propose un rendez-vous quotidien au cœur de la vie des Français. Face à cette épidémie et ses conséquences, les équipes de 7 à 8 se mobilisent pour partager avec vous des expériences de vie, des initiatives solidaires et les difficultés liées à cette situation sans précédent. 7 à 8, la quotidienne, les Français face à l'épidémie, votre nouveau rendez-vous à partir de lundi à 19h05 sur TF1.
Alors, la bande-annonce parle d'expériences de vie, d'initiatives solidaires, de difficultés liées à cette situation. Quel est le programme de ce soir exactement ?
Le programme de ce soir, c'est une France qui s'est réinventée depuis 7 jours maintenant, une France qui travaille différemment, qui vit différemment, qui se divertit différemment.
Alors, par exemple,
solidarité.
Par exemple, vous connaissez déjà les sujets ou ils sont encore en montage aujourd'hui toute la journée ?
C'est encore en montage, et ça c'est l'une des nouveautés pour nos équipes, c'est qu'on va travailler sur une quotidienne et donc avec un rythme et un flux qui sera un peu différent de ce qu'on fait habituellement. Mais on sait évidemment les endroits dans lesquels nous avons tourné. Je peux d'ores et déjà vous dire qu'on va vous raconter la vie d'un immeuble parisien. Je peux vous dire également qu'on sera à Belle-Île-en-Mer, qu'on sera à Tours, on sera sur différents fronts avec dans les services hospitaliers, on sera aussi avec des forces de l'ordre, on sera avec des gens qui travaillent. Et je vais en profiter pour dire que, je sais que vous allez l'aborder tout à l'heure, mais la banlieue fait évidemment partie de cette France confrontée au coronavirus dans des conditions très particulières. On l'a montré hier soir dans notre sujet 7 à 8 dire, puisque nous étions à Créteil, nous étions au Neuf, aussi à Strasbourg. On a montré comment l'application des règles de confinement était particulièrement difficile dans certains quartiers, dans des appartements qui sont parfois pas très grands. Et ça, on va continuer à le montrer. Donc on va vraiment montrer la diversité des situations, des difficultés, mais aussi des initiatives positives qui font un peu cette période, cette parenthèse très particulière de la vie des Français et de la vie de nombreux habitants dans de nombreux pays dans le monde aujourd'hui.
En quoi le format sera différent de ce qu'on peut voir habituellement le dimanche ? Ça va être la décalque, de l'émission du dimanche ou alors en format totalement à part ?
Non, c'est un format totalement nouveau et je tiens d'ailleurs à remercier toutes les équipes d'Éléphant et compagnie. Il faut savoir qu'on a on a dû s'adapter en 10 jours, c'est-à-dire qu'il y a 10 jours, on a appris qu'il fallait faire ce format et la mobilisation a été générale dans tous les services de la maison pour apporter un format qui sera nouveau. Alors il sera nouveau dans sa forme parce que évidemment nous, notre ADN, c'est la séquence, c'est tourner avec les gens, être au plus proche d'eux, la situation et les règles de confinement que l'on respecte pour la santé des collaborateurs et pour la santé des gens que l'on filme, font qu'on va avoir des choses un peu différentes, c'est-à-dire qu'on va avoir des séquences qui sont tournées par les gens eux-mêmes, on va avoir des interviews qui sont faites par Skype, on va avoir tout un tas de formats à l'image qui sont des formats différents et qui vont faire une télévision un peu nouvelle dans sa forme également.
Vous n'allez parler que du coronavirus ?
Alors, on va parler du contexte coronavirus. On sera évidemment dans des services hospitaliers avec des médecins, donc on verra des gens malades, mais l'essentiel du format montrera cette France qui se réinvente et qui vit confrontée à cette menace-là, mais on ne sera pas c'est pas le magazine de la santé, si vous voulez.
D'accord.
C'est-à-dire qu'on ne sera pas qu'avec des gens malades et que sur le plan médical. Il y a évidemment aussi l'importance pour nous d'être cohérent avec la proposition d'information de TF1. Il y a les journaux qui sont là pour ça, qui sont là pour donner des informations sur la maladie, sur son évolution. Nous, on est à une place un peu différente et on est très complémentaire de l'offre d'infos de TF1.
Je vous demande ça parce qu'hier, votre émission est évidemment consacrée au coronavirus. Extrait du sommaire.
Nous n'avions jamais vécu ça. Depuis 6 jours, la plus grande partie des 60 millions d'habitants du pays vit confinée à la maison. C'est la conséquence spectaculaire cette semaine d'une épidémie qui inquiète, notamment par l'ampleur de sa propagation, celle du Covid-19 ou coronavirus. Alors comment vit-on cette situation en fonction de son lieu de confinement ? Valérie s'organise avec ses 4 enfants dans 80 mètres carrés. Chola s'improvise prof de maths pour sa fille de 13 ans. Et Claire-Lise retrouve sa maison après avoir été hospitalisée 12 jours dans un état grave. Nous sommes aussi allés à la rencontre de ces Français qui travaillent à l'hôpital, dans la police et les commerces, malgré le stress lié au virus. C'est un document signé par la rédaction de 7 à 8.
Vous tournez au jour le jour, Harry Roselmack, où vous savez déjà ce que vous allez faire toute cette semaine, comme quand vous faites l'émission dominicale, vous la préparez évidemment en amont. Ou est-ce que là, on est tellement dans une situation délicate et inédite pour tous les médias, les télévisions comme les radios, que c'est vraiment au jour le jour ?
Alors, ce qui va faire la différence avec les JT dont je parlais tout à l'heure, c'est que nous, on va être à J+1 ou J+2 par rapport à nos tournages. C'est-à-dire qu'on ne va pas tourner le jour même ce qu'on va diffuser le soir. Encore une fois, on n'est pas dans une proposition d'information news, on est dans la vie des Français. On peut se permettre d'avoir un jour de décalage par rapport à ce que l'on tourne et ce que l'on met à l'antenne. Donc on a cette soupape de sécurité. Il faut savoir que fabriquer un magazine qui fera de 35 à 40 minutes chaque jour, c'est un vrai défi logistique, c'est un vrai défi de production, c'est évidemment un défi éditorial et de travail de cette information, parce que même si je disais tout à l'heure qu'on va avoir des séquences qui sont tournées par nos personnages, par les gens qu'on a castés et choisis, le gros du travail, c'est évidemment de traiter ces séquences-là et de les intégrer dans un travail éditorial qui est construit par la rédaction en chef de 7 à 8. Et tout ça, ça demande effectivement quelques heures. Donc ce serait très compliqué effectivement de tourner le matin ce qu'on diffusera le soir. On tourne à J-1, voire J-2.
Exactement, d'autant qu'il y a déjà les journaux qui font ça sur TF1. On n'a pas encore parlé du plateau habituel de l'habillage. Vous restez avec nous, Harry Roselmack. On marque une pause et on vous retrouve tout de suite après ça.
Pour votre
votre cabine de douche. Retrouvez sur manomano.fr le plus grand choix de robinets qui mélangent l'eau chaude et l'eau froide. De machins pour que l'eau tombe d'en haut comme quand il pleut. Et même de grands tuyaux qui se plient alors que pourtant, ils sont en métal. Sinon, pour ceux qui préfèrent se laver allongé, nous avons aussi des grands machins blancs. Même si en vrai, c'est plus pour écouter de la musique avec des bougies parfumées. Manomano.
C'est tout de suite plus facile avec manomano.fr. Bricolage, maison, jardin, manomano.fr, vous pouvez le faire.
Salut, c'est Ahmed Silla. Vous m'avez reconnu ? Oui, Ahmed a changé. Ahmed est un homme nouveau, différent, riche, de nouvelles expériences. Vous avez vu sa classe ? Oui, à la radio, ça saute pas aux yeux, quoi. Bon, sinon, je vous attends sur Canal+, pour découvrir mon nouveau spectacle, Différent. Lui aussi.
Découvrez Différent, le nouveau spectacle d'Ahmed Silla. Dès mercredi, seulement sur Canal+.
Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
En compagnie d'Harry Roselma qui présente à partir de ce soir la quotidienne de 7 à 8. Ça sera à quelle heure? Ça sera à 19h05, c'est ça?
19h05.
Vous démarrez à 19h05, vous allez jusqu'au journal de 20h parce qu'en plus la publicité commence à être réduite. C'est quoi le format?
Bah, le format, oui, ça va être ça, entre 35 et 40 minutes pour s'arrêter juste avant la météo et le journal.
Alors je l'ai dit, vous ne serez pas sur votre plateau habituel à TF1, mais vous enregistrez dans les bureaux d'Éléphant, c'est ça? La société de production d'Emmanuel Chin, ça sera le même décor que vous avez reconstitué là-bas ou ce sera un décor neuf?
Non, c'est un programme neuf et donc ce sera pas un Harry neuf, désolé de vous l'annoncer. Harry, c'est Harry et il vieillit, il rajeunit pas. Néanmoins, on aura effectivement un décor neuf. Dans l'idée, c'est d'être dans un maximum de proximité avec les gens. Donc on sera dans un décor très naturel qui sera un décor un peu cosy et qui sera un intérieur. Tout comme ce que l'on montrera, parce que la particularité aussi de ce qu'on va montrer, ben c'est qu'on est beaucoup en intérieur, parce que la vie aujourd'hui, elle se passe à l'intérieur.
Attendez,
de chez les gens et des bureaux.
Évidemment, nous, on n'a pas vu l'émission. Vous avez reconstitué un intérieur d'une, comme dans Friends, par exemple, avec un canapé et une table.
Il y a un canapé, il y a des tables. Après, on n'a pas les moyens d'une série de fiction. Mais voilà, on a essayé d'avoir comme ça un environnement qui rappelle un intérieur et qui soit cosy et qu'on soit en proximité avec les Français qui en ont bien besoin en ce moment.
Pourquoi ce choix de ne pas tourner à TF1? C'était un choix de simplicité ou c'était un choix logistique pour raison médicale?
C'est effectivement un choix qui est guidé par le devoir de limiter les interactions entre les gens. Les médias, comme l'ensemble de la sphère médiatique, de la sphère entrepreneuriale, doit prendre effectivement des décisions pour limiter les interactions et TF1 limite les allées et venues. Parce que quand on enregistre une émission, c'est beaucoup de techniciens qui viennent de l'extérieur, c'est beaucoup de gens qui arrivent de l'extérieur. Et ça, on évite pour participer à cet effort national contre la propagation de ce virus.
Et également équipe renforcée pour vous. Vous serez combien en plus?
Alors, l'une des grandes forces de ce qu'on arrive à faire, c'est qu'on va être à peu près à effectif constant. Ce sont les équipes de 7 à 8 qui sont au cœur de ce dispositif. Alors, il y a une partie des équipes éditoriales d'Éléphant et compagnie. Vous savez, Éléphant, c'est une société qui produit d'autres émissions que 7 à 8 qui viennent en renfort sur cette quotidienne. Et puis, on aura aussi quelques intermittents, JRI notamment, qui pourraient venir en renfort sur la durée. Parce que l'une des particularités, c'est qu'on ne sait pas combien de temps cette émission va durer. On ne sait pas combien de temps on sera à l'antenne. A priori, on y sera le temps de ces mesures exceptionnelles de confinement, mais on ne sait pas combien de temps ce confinement durera. Donc il faut pouvoir se préparer à durer.
D'un mot, parce qu'il nous reste quelques secondes, Harry, est-ce qu'il est difficile de trouver des gens qui acceptent de travailler? Au contraire, est-ce que la profession de journaliste, de technicien sont très mobilisés autour de ce coronavirus?
Non, comme dans tous les secteurs qui travaillent aujourd'hui, on a plein de gens très courageux, très mobilisés, je les remercie encore, je les félicite, et les équipes qui sont les nôtres en font partie, et tout le monde a accepté de participer à cette aventure.
Merci beaucoup Harry Roselmack d'avoir été avec nous ce matin, 7 à 8 la quotidienne, c'est à partir de ce soir, 19h05 sur TF1, merci. Culture Média continue après le rappel des titres de 10h, on va retrouver nos invités, Fabrice Gold, directeur général de France 3, Paris-Île-de-France, et le journaliste suisse
Richard Verly, correspondant en France du journal Le Temps. On se demandera pourquoi les télés ne montrent quasiment jamais la banlieue dans les sujets sur le coronavirus. Il y aura le journal de la culture d'Hélène Manarino, puis l'humoriste Jarry en spectacle chaque soir, non pas au théâtre puisqu'ils sont fermés, mais sur les réseaux sociaux. Et puis Laurent Mariotte dans Les Indispensables qui va nous proposer sa recette du jour avec sa chronique Restons à la maison et cuisinons. Et Margot Barallon nous parlera Formule 1, pas d'un grand prix, mais d'une magnifique série sur Netflix. Restez avec nous, à tout de suite. Europe 1, 10h. Le flash, Théo Manval.
Les 12 malades du coronavirus évacués de Corse par la Marine nationale sont arrivés ce matin à Marseille, répartis dans 4 hôpitaux de la ville, alors que l'on attend dans la journée l'avis du Conseil scientifique sur une prolongation du confinement. Hier, le Conseil d'État a donné 48 heures au gouvernement pour revoir sa copie et clarifier les règles, interdire notamment les sorties pour jogging et réexaminer le maintien des marchés ouverts. Dans une lettre au président de la République, 573 médecins demandent eux aussi une communication plus explicite. En près d'une semaine, 91 000 infractions aux règles du confinement ont été relevées par les forces de l'ordre et les sanctions sont désormais durcies. Les 135 euros d'amende passent à 1 500 en cas de récidive dans les 15 jours. De plus en plus de villes ont mis en place un couvre-feu après Nice, Charleville-Mézières ou encore Mulhouse depuis hier soir. Mulhouse où l'hôpital de campagne monté par l'armée commence à être testé ce matin avant d'accueillir ses premiers patients. Il doit offrir 30 nouvelles places en réanimation. Le dernier bilan en France est de 674 décès, c'est 112 de plus en 24 heures. Et cela ne prend pas en compte les personnes mortes chez elles ou en EHPAD, précise le directeur général de la Santé. Le premier essai clinique à l'échelle européenne est lancé, ça y est, depuis hier. 3200 patients, dont 800 en France, qui testent plusieurs traitements, dont celui à la chloroquine déjà expérimenté à Marseille. Et pendant ce temps-là, Solidarité continue de s'organiser. Plusieurs centaines d'hôtels annoncent ouvrir leurs portes aux sans-abri dans tout le pays. La SNCF offre la gratuité des TGV et des intercités à tous les personnels soignants. Par ailleurs, à l'Élysée, début à l'instant d'une réunion par téléphone entre le chef de l'État et les représentants religieux pour évoquer notamment la question du deuil. Ailleurs dans le monde, les États-Unis enregistrent 100 nouveaux morts en 24 heures et échouent à voter le gigantesque plan de relance de l'économie voulu par Donald Trump. Démocrates et républicains n'arrivent pas à se mettre d'accord au Sénat. La Chine, elle, enregistre un cinquième jour sans cas de contamination locale, tandis que la Grèce se réveille à son tour confinée pour un premier jour. Enfin, le Comité international olympique et les autorités japonaises commencent à infléchir leur discours. Un report des JO de Tokyo prévu cet été pourrait être envisagé. Déclaration du Premier ministre Shinzo Abe. Le CIO se donne 4 semaines pour décider. 10h03 sur Europe 1, comme promis toutes les heures, on continue cette semaine encore de répondre à toutes vos questions. Hashtag Radio Ouverte sur Twitter ou bien au 3921. Et comme tous les matins, c'est notre spécialiste santé Mélanie Gomez qui est là en direct pour vous répondre. Bonjour Mélanie.
Bonjour Théo, bonjour à tous.
Léon nous écrit de Frontignan. Je sais que le paracétamol est maintenant rationné. J'imagine que c'est parce qu'on en manque déjà à cause du coronavirus, nous dit-il. Je suis diabétique et je crains qu'il y ait une pénurie pour les autres traitements. Est-ce que c'est à craindre ?
Alors, Léon, à ce stade, selon le gouvernement, aucun problème d'accès aux médicaments n'a été signalé en relation, bien sûr, avec l'épidémie de coronavirus en France ni en Europe. D'ailleurs, il n'existe pas non plus de pénurie actuelle ou à venir en ce qui concerne le paracétamol. Si l'ANSM, l'Agence du médicament, a mis en place une sorte de rationnement, c'est parce que depuis le début de l'épidémie, comme on a beaucoup répété que le paracétamol était le médicament le plus indiqué, si on a des premiers symptômes de coronavirus, c'est-à-dire si vous avez de la fièvre, des douleurs, des maux de tête, eh bien, certains avaient commencé à essayer de se constituer des stocks, à faire des réserves, un peu comme ce qu'on a vu avec le papier toilette ou d'autres de produits de première nécessité. Donc, pour éviter en fait ce type de comportement et les éventuels risques de rupture de stock, justement, que ça peut entraîner, eh bien, il a fallu, par précaution, limiter la délivrance du nombre de boîtes par personne. Alors, ne vous inquiétez pas non plus, ceux qui en ont vraiment besoin à ce jour, il n'y a aucune raison pour qu'on en manque. Enfin, pour ce qui est des autres médicaments, hein, c'est le but aussi de votre question, Léon. C'est vrai que l'industrie pharmaceutique mondiale est très dépendante des activités de production en Asie. Si l'épidémie devait se poursuivre pendant une longue période, des impacts sur la disponibilité de certains médicaments ne seraient donc pas à exclure. Donc c'est vrai que c'est une question cruciale et que le ministère de la Santé suit de près l'évolution de cette situation. Et puis en ce qui vous concerne, vous Léon, vous dites que vous êtes diabétique. Alors surtout, faites très attention, soyez très prudent, appliquez bien les gestes barrières parce qu'effectivement, les diabétiques font partie des personnes les plus à risque qui ont été identifiées depuis le début de l'épidémie.
Merci beaucoup Mélanie Gomez. On vous retrouve donc dans une heure dans ce flash. Vos questions, chers auditeurs, hashtag Radio Ouverte sur Twitter ou bien au 3921.
Merci Théo Manval, merci Mélanie Gomez. À tout à l'heure, Culture Média continue.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Europe 1, Culture Média. Philippe Vandel.
Merci de nous retrouver si vous nous rejoignez seulement maintenant et merci aussi de nous écouter si vous nous écoutez pour la première fois. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h pour la suite de l'émission. On va se demander pourquoi les médias, notamment les télés, ne montrent quasiment jamais la banlieue dans les sujets sur le coronavirus. Il y aura le journal de la culture d'Hélène Manarino. Puis nous recevrons l'humoriste Jarry pour son Jarry Show chaque soir sur Instagram et Facebook et puis dans les indispensables de la cuisine et de la Formule 1. Mais on va revenir au journalisme car on dirait qu'il existe un point aveugle dans le traitement de la crise du coronavirus par les télévisions, la banlieue et plus spécialement ce qu'on appelle les quartiers difficiles ou les quartiers tout court, très peu d'images, très peu de reportages, alors qu'ils sont paradoxalement très peuplés avec une forte densité dans les tours et les barres d'immeubles. Pour quelle raison ? On sait que les habitants des quartiers reprochent aux médias de ne jamais venir filmer que les voitures qui brûlent ou les trafics et jamais ce qu'il y a de positif. Est-ce à dire que tout ira bien dans ces quartiers ? Élément de réponse avec Richard Verli, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le correspondant en France du quotidien suisse Le Temps et vous avez consacré un long reportage sur les banlieues de Paris pendant le coronavirus. C'était jeudi avec également un regard décalé puisque par définition vous n'êtes pas français. On va entendre également Fabrice Gold qui est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Fabrice, vous êtes le directeur régional de France 3 Paris-Île-de-France au plus près du terrain et vous nous direz pourquoi il est si difficile pour les équipes d'aller tourner en banlieue et même d'abord d'aller tourner tout court. Richard Verli, je l'ai dit, vous avez publié jeudi une longue enquête dans Le Temps, le quotidien de Lausanne, mais qu'on peut trouver sur internet évidemment. Le titre, à Saint-Denis, l'impossible confinement d'une capitale, je lis le chapeau, c'est-à-dire le début de l'article. Au nord de Paris, le centre-ville populaire de Saint-Denis ne vit toujours pas à l'heure du confinement strict réclamé par Emmanuel Macron. Comment y parvenir ? Les forces de l'ordre, ça vous dépasse ? Dans quelles conditions avez-vous travaillé ?
Alors c'est assez simple, j'ai choisi Saint-Denis comme j'aurais pu choisir d'autres quartiers, d'autres zones de banlieue. Il se trouve que j'ai la chance à Paris, puisque j'y suis correspondant, de circuler en scooter, donc j'y suis tout simplement allé en scooter. J'ai tourné sur place pendant toute la matinée, je me suis arrêté, j'ai parcouru la principale artère de Saint-Denis, la rue de la République, qui est, comme vous le savez, une rue très commerçante, d'habitude extrêmement animée, et les alentours. Et c'est là que je me suis aperçu, effectivement, mais il faut bien le redire, c'était jeudi dernier, que le confinement strict n'était, disons, pas trop respecté, qu'il y avait en tout cas beaucoup de problèmes, beaucoup de petits attroupements, que les forces de l'ordre que j'ai croisées étaient clairement en difficulté parce qu'elles n'étaient pas en mesure d'intervenir, le nombre de policiers n'était pas là, les masques de protection, je n'ai vu aucun policier en porter. Par contre, ce que j'ai vu aussi, et je le dis dans l'article, c'est des habitants de ces quartiers qui, eux, veulent respecter le confinement et qui sont en colère contre ceux qui ne le font pas.
Ouais, alors je précise ce que vous disiez, c'était jeudi, la situation a peut-être changé. À noter que ce matin, en préparant l'émission, Lise Pressac, le rédacteur chef de l'émission, m'a fait remarquer qu'il y a un papier du Monde qui est sorti ce matin à 8h49. Titre du papier du journal Le Monde, coronavirus dans les quartiers populaires, l'incompréhension face aux mesures de confinement. Il y a ce témoignage, par exemple, quand on vit à 7 dans un 3 pièces, on a l'impression d'être plus en sécurité dehors. Donc ça n'a pas beaucoup changé depuis votre papier. Vous racontez que dans le centre-ville historique, le pur centre-ville, tout va bien, mais un peu plus loin, par exemple, au niveau de poste, au niveau du bureau de poste, plus personne respecte les consignes.
Alors, il faut savoir que le bureau de poste principal de Saint-Denis, il est en plein centre-ville. Il est sur la rue de la République, ouais. Il est à peu près 150 mètres de la mairie. Donc, effectivement, le jour où je m'y suis rendu, il y avait un évident problème parce que la queue devant le bureau de poste, d'abord, était très longue. Ensuite, elle était mal organisée. Les deux vigiles qui étaient devant n'y arrivaient pas. C'était la même chose un peu plus loin à la pharmacie. Encore une fois, les commerçants, ceux qui restaient ouverts, je pense notamment aux boucheries, étaient assez en colère de ce qu'ils voyaient, ben de oui. Ce qui se passait, mais les policiers n'étaient pas en mesure d'intervenir. Une autre chose que je me suis aperçu, c'est le problème des laveries. Alors, parce que, par définition, la laverie est un lieu où se crée un attroupement, et dans beaucoup de laveries, il y avait au moins 5, 6, voire plus de personnes à l'intérieur, et ça posait un problème qui, depuis, a peut-être été résolu.
Ouais, vous parlez de la pharmacie, vous prenez le cas de la pharmacie qui est à côté du bureau de poste. Là aussi, écrivez-vous, le vide vigile service est désolé. Il vous dit, le vigile, il parle des gens qui sont là, il dit ils ne comprennent rien. Certains disent même que ce virus est une fable des Blancs pour les obliger à déserter la rue. C'est pas du tout le genre d'interview qu'on voit dans les 20 heures.
Alors effectivement, ce que je relate, c'est ce que j'ai entendu, parce que j'étais aux abords de cette pharmacie, j'y suis resté, je me suis assis là sur un mur, et c'est ce que j'ai tout à fait entendu dire d'un groupe de jeunes qui attendaient à la fois devant le pharmacie et devant le bureau de tabac. Le paradoxe, c'est que cette pharmacie à Saint-Denis était plutôt mieux achalandée que la moyenne, parce que jeudi dernier, on y trouvait notamment du gel hydroalcoolique en quantité, c'est d'ailleurs là que j'en ai acheté.
Ouais. Vous avez également parlé à des policiers, que vous ont-ils dit ? Comment ça se passe au niveau des contrôles ?
Alors écoutez, là il y a une scène que je dois absolument raconter parce qu'elle était un peu, je dirais, ahurissante. C'est que les premiers policiers que j'ai vus dans le centre de Saint-Denis sont arrivés en trottinette électrique. Ils étaient deux, donc vous imaginez un peu le décalage, vous avez des attroupements, vous avez une situation qui ne correspond pas du tout aux mesures de confinement et vous avez deux policiers tout seuls qui arrivent en trottinette et qui vous avouent leur impuissance.
Pardonnez-moi, juste un mot des policiers nationaux ou des policiers municipaux ?
Alors c'était des policiers nationaux, tout à fait, qui visiblement patrouillent de cette manière d'habitude, ce n'était pas extraordinaire, mais le dénuement, l'impression de dénuement que ça donnait était très très forte. Ensuite, quand je me suis écarté du centre, alors là, près du centre culturel Romain Rolland notamment, il y avait deux voitures de police qui étaient en train d'appréhender, de verbaliser tout un attroupement de femmes qui tenaient un marché en extérieur. Donc là, visiblement, ils étaient passés à l'acte. Et d'après ce qu'on me dit, parce que je n'y suis pas encore retourné, les choses ont quand même beaucoup changé depuis une semaine. Et semble-t-il que le centre de Saint-Denis et les abords sont bien plus quadrillés par des effectifs plus denses et avec des véhicules appropriés.
Ouais, et alors, ça va plus loin. Quand vous demandez aux policiers s'il leur arrive de verbaliser et d'infliger les fameuses amendes à 135 euros, pas seulement aux mères de famille, aux personnes âgées, mais aux jeunes, leur réponse... Là, je vais vous citer, ce n'est pas jouable, reconnaît l'un des policiers. Si une dispute commence, on ne pourra pas gérer. Le risque de contamination deviendra encore plus grand. Donc là, on vous le dit, il laisse faire.
Oui, je vous le confirme, c'est vraiment une inquiétude de la part de ces policiers parce que les gens à qui ils ont affaire pour beaucoup sont plutôt des jeunes hommes qui s'attroupent dans des endroits, par exemple près des bureaux de tabac ou autres. Intervenir et qui plus est les verbaliser avec des montants d'amende très élevés, ça serait quand même le risque de déclencher une pagaille à tout le moins. Et les policiers que j'ai rencontrés ne se sentaient pas du tout à même, sans masque et sans gants, de se trouver pris dans une situation de ce genre. Ouais. Donc oui, il y avait une vraie réticence à intervenir de manière forte. Encore une fois, ça a peut-être changé, mais à ce moment-là, il est clair que c'était une zone d'ombre dans le dispositif de confinement.
Dernière question rapide, Richard Verly. Il y a des équipes de télévision dans beaucoup de villes de France, même dans les petits villages, même dans les stations de ski. Est-ce que vous avez vu une ou des équipes de télé pendant que vous étiez sur place, lors de votre enquête ?
Alors, au moment où j'y étais, non. Mais encore une fois, j'y suis resté toute une matinée, c'est-à-dire 4-5 heures. Donc, je ne vais sûrement pas prétendre qu'il n'y avait pas d'équipe de télévision. Il y en avait peut-être qui sont venus avant ou après. Mais au moment où j'y étais, il n'y en avait pas. Et les gens à qui j'ai parlé ne m'ont pas dit en avoir rencontré, puisque beaucoup m'ont dit « Vous êtes le premier journaliste à être venu nous voir ». Et j'insiste aussi sur ce que Le Monde a écrit. C'était très vrai. Et d'ailleurs, je l'avais mis dans mon papier. Beaucoup de ces gens vivent dans des conditions extrêmement difficiles, parfois insalubres. Et par contre, conséquent, rester chez eux, c'est aussi une punition, je dirais même problématique du point de vue de la santé. Ajoutons également qu'à proximité de Saint-Denis, à ma grande surprise, je dois dire, les quartiers avec des grandes tours d'immeubles comme la Courneuve, là, pour le coup, le confinement était très respecté lorsque je suis passé.
Merci beaucoup, Richard Verly, correspondant en France du journal du quotidien suisse Le Temps, qui est basé à Lausanne. Merci d'avoir été avec nous. On va continuer à parler avec Fabrice Goll de ce problème des images qu'on peut faire ou non dans les quartiers. Pourquoi les médias ne montrent quasiment jamais la banlieue dans les sujets sur le coronavirus ? À tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, radio ouverte.
Europe 1, plus que jamais, se mobilise pour vous accompagner, vous informer,
vous divertir aussi.
7 jours sur 7, nous bousculons nos programmes pour vous offrir, grâce à un dispositif technique exceptionnel,
une radio ouverte à toutes vos questions, toutes vos interrogations.
Vos témoignages, vos initiatives, vos solutions sont les bienvenues.
Rendez-vous sur nos réseaux sociaux avec le hashtag Radio Ouverte.
Et pour nous joindre, un seul numéro.
39,21, 50 centimes la minute. Tous les bénéfices seront reversés à l'Institut Pasteur.
Europe 1, Radio Ouverte.
Ça peut arriver partout, à n'importe quel moment.
81% des femmes en France ont déjà été victimes de harcèlement sexuel dans des lieux publics. Nous en sommes témoins, mais nous détournons souvent le regard. Le moment est venu de réagir. L'Oréal Paris, l'ONG Olabac et la Fondation des Femmes s'unissent pour apprendre aux hommes et aux femmes comment lutter contre le harcèlement de rue. Grâce à des actes simples, mais déterminants.
Agissons ensemble contre le harcèlement de rue. Apprenez à réagir sur standup-france.com.
Baron de l'Estac.
Un couple pour ses invités, sur le menu hésitait. Lundi viande, l'autre poisson. Baron de l'Estac leur dit tout de bon.
Quelle que soit votre décision, pour le vin, je suis à votre disposition. Bordeaux, rouge, blanc ou rosé, je suis fruité ou boisé.
Notre couple n'avait pas son menu encore, mais sur Baron de l'Estac, ils se mirent d'accord.
Conclusion, Baron de l'Estac selon votre préférence, de toutes les couleurs est une référence. Baron de l'Estac, ce Bordeaux, c'est quelqu'un.
Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.
Europe 1, Culture Média, Philippe Vondel.
Pourquoi les médias et notamment les télévisions ne montrent quasiment jamais la banlieue dans les sujets sur le coronavirus ? Bonjour Fabrice Goll.
Bonjour Philippe.
Vous êtes le directeur de France 3 Paris-Île-de-France. Je vous remercie d'être avec nous en direct sur Europe 1. Vous avez entendu le témoignage de Richard Verly, correspondant en France du quotidien suisse Le Temps. Je veux savoir ce que cela vous inspire et est-ce que vous-même déjà vous avez envoyé des équipes tourner dans ce qu'on appelle les quartiers ?
Écoutez, nous, on a hier soir, dans nos 19-20, diffusé les trois quarts de nos reportages en dehors de Paris.
Ouais.
Donc, ce que vous décrivez, c'est sans doute vrai sur des médias nationaux. Mm-hmm. Sur un média régional comme le nôtre, c'est beaucoup moins vrai.
Ouais,
on a déjà tourné en Seine-Saint-Denis, dans le Val d'Oise, dans l'Essonne, enfin bref, dans tous les départements d'Île-de-France. Que France 3 est la seule chaîne de télé nationale qui a des implantations dans toute la France, y compris en Seine-Saint-Denis, puisque nous, on a un bureau qui est ouvert depuis 10 ans en Seine-Saint-Denis et qu'on a 4 journalistes permanents qui sont sur la Seine-Saint-Denis et qui donc tournent des reportages toute l'année, pas seulement pendant le coronavirus, mais évidemment toute l'année. Après, évidemment, c'est plus difficile d'aller dans les quartiers, mais
évidemment,
c'est pas seulement lié au coronavirus, c'est parce que c'est plus difficile et plus dangereux pour des journalistes quand vous avez une caméra, notamment en télé, vous êtes visible, c'est plus difficile d'aller dans certains quartiers, mais ça, c'est valable tout le temps.
Évidemment. Juste une question, je crois que vous avez des cas, est-ce que vous avez des équipes en quarantaine ou est-ce que toutes vos troupes sont disponibles ?
Non, toutes nos troupes ne sont pas disponibles. On a quelques gens qui sont malades. Heureusement, ce ne sont pas des cas graves. Donc, ce sont des gens qui ne sont pas hospitalisés. Mais vous savez que quand ils ont été en contact avec d'autres journalistes, on doit prendre toutes les précautions pour que ces journalistes-là ne viennent pas travailler et restent chez eux. Donc, c'est une période très compliquée pour nous parce qu'en plus, on sort d'une période élection municipale. On avait beaucoup de journalistes sur le terrain, beaucoup de gens confinés dans les rédactions, les conférences de rédaction. Il y avait beaucoup de monde. Donc, forcément, aujourd'hui, on passe dans une situation beaucoup plus difficile avec beaucoup moins de journalistes sur le terrain, mais nous avons des éditions spéciales midi et soir. On mutualise aussi avec France 3 National, avec France 2. On a le même plateau, la même régie. Donc, on assure la continuité du service public sur l'audiovisuel, évidemment, dans une période où les gens ont besoin de ce lien, ont besoin d'être informés, etc.
Vous parliez du reportage que vous avez passé, que vous avez fait en Seine-Saint-Denis. Est-ce que vous avez constaté les mêmes choses que constatait le Richard Verly, je retrouve son nom, le journaliste suisse, ou ce matin, le papier dans Le Monde, qui disent les deux, c'est de la presse écrite, mais que le confinement a beaucoup de mal à être réalisé là-bas, justement, dans ces territoires.
Oui, on a constaté les mêmes choses, mais on a constaté aussi les mêmes choses, pas seulement en Seine-Saint-Denis, aussi dans les Hauts-de-Seine. Mmh. Colombes, il y a un couvre-feu qui a été instauré par la maire de Colombes hier. On était en direct hier à Colombes. Voilà, il n'y a pas qu'en Seine-Saint-Denis. Nous, on traite la Seine-Saint-Denis comme on traite les autres départements, sans a priori. Et nous, on est là-bas toute l'année. Ça nous permet aussi d'avoir un regard neutre, entre guillemets, sans a priori.
Suis d'accord. C'est justement pour ça que je voulais que ce soit vous qui soyez ce matin en direct avec nous, justement pour expliquer ça. Je veux dire quelque chose qui m'a frappé, c'était hier dimanche, le 13h de TF1 a tourné un sujet sur le confinement dans la ville de Marseille. Il y avait des interviews, il y avait une reporter sur place, on voyait le Vieux-Port, le MUCEM, le magnifique musée d'art contemporain, une place habituellement noire de monde à cause des restaurants, devenue complètement déserte. Mais ce qui était très frappant, c'est que dans leur dispositif, ils avaient un drone, ce qui leur permet d'aller partout dans le drone.
une grande part de la population de Marseille, on le sait, habite dans les quartiers nord, dans les cités défavorisées, eh bien, il n'y avait aucune image des cités. La question n'a même pas été évoquée, comme si c'était un sujet tabou. Je vous pose la question de manière générale. Est-ce que, selon vous, ces territoires-là, ces endroits-là, sont un sujet, un territoire tabou ?
Non. Franchement, je ne pense pas que ce soit des territoires tabous, des territoires où on ne va jamais. Après, la réalité aussi, elle est simple. Quand vous avez un reportage, quand vous commandez un reportage, que vous devez le livrer pour midi ou pour 13 heures, vous avez peu de temps pour fabriquer ce reportage. Donc parfois, oui, les médias vont au plus vite. Mmh. Et c'est plus facile de tourner. Je ne veux pas parler pour mes collègues de TF1, mais je me mets deux secondes à leur place. C'est plus facile d'aller tourner un reportage sur le Vieux-Port, dans le centre de Marseille, que d'aller dans une cité où il faut prendre des précautions, etc. Mmh. C'est aussi le système médiatique qui veut qu'on on va toujours vite, il faut que ça aille vite, il faut que les JT sortent, etc. Donc parfois, les médias peuvent céder à la facilité, oui.
Voilà. Et puis il y a une différence entre les médias, la presse écrite, la radio, la télévision. Les radios peut-être sont plus libres que les télévisions, l'équipement est plus léger, je ne vous apprends rien. Ce matin sur Europe 1, par exemple, dans le 6-9 de Mathieu Béliard, il y avait un reportage de Jean-Sébastien Soldaini. Il est allé à Créteil, il a reconnu que le confinement était relativement bien respecté dans le centre-ville le jour. Le jour, tout est désert, mais quand vient la nuit, tout change, extrait de son reportage.
Mais au moment où le soleil se couche, quand certaines rues se font très sombres, des halls d'immeubles s'animent. À La Courneuve, Aulnay-sous-Bois, Créteil, les mêmes scènes. Des groupes se forment devant les portails. J'ai vu jusqu'à 8 à 10 personnes rassemblées autour du coffre d'une voiture. De jeunes hommes, sweat à capuche, regards menaçants, semblent utiliser des masques chirurgicaux pour leur anonymat plutôt que pour se protéger d'une infection, car ils se font la bise pour se saluer. Alors que des guetteurs s'installent au coin des rues, les petits trafics semblent donc se poursuivre au mépris des règles élémentaires pour contrer la propagation du virus.
Et là, on comprend bien qu'il sera encore plus difficile pour vous d'aller tourner en caméra cachée de nuit dans ces quartiers-là.
Évidemment. Évidemment. Oui, bien sûr. Et puis, quand vous regardez un journal sur France 3, nous, on insiste aussi beaucoup, au-delà de la situation sanitaire, etc., des contrôles, des policiers, mais quand vous regardez nos journaux, il y a beaucoup de proximité, il y a beaucoup d'humanité. On a fait beaucoup de reportages sur les gens qui sont confinés.
Vous voulez dire, comme il reste 30 secondes, je me permets de vous interrompre, vous voulez dire qu'il y a une part de politiquement correct de la part des télés qui ne veulent pas, et c'est bien normal, stigmatiser des quartiers qui sont déjà socialement très défavorisés?
Je ne sais pas ce que j'ai dit, non. Je ne pense pas qu'il y a du politiquement correct. Je vous répète, mais dans une situation très difficile pour les journalistes en ce moment, c'est encore plus compliqué que d'habitude d'aller tourner dans les quartiers, surtout pour les télévisions. Ouais. Voilà, mais il n'y a pas de politiquement correct, à mon avis, Philippe.
Eh ben, ça fait plaisir à entendre. Merci beaucoup, Fabrice Gold. Je rappelle que vous êtes directeur régional de France 3 Paris-Île-de-France.